Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote.
France Musique.
France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin.
Bonjour à tous, bienvenue au cœur de l'orchestre, dernier épisode de mon parcours avec Sibelius, auteur de symphonies. Il peut être considéré avec Shostakovich comme l'un des derniers à avoir donné droit de cité à ce genre de la symphonie au XXe siècle. Alors en 1917, le Parlement de Finlande déclare l'indépendance du pays grâce à la chute du régime tsariste, mais Sibelius, malgré tout, est plus dépressif que jamais. Il pense même au suicide, mais se ressaisit pour terminer la cinquième, que nous écoutions hier, et se mettre dans la foulée à la sixième, créée en 1923. Alors, plus rien du côté aride de la quatrième, plus rien non plus de l'immensité cosmique de la cinquième. On passe cette fois à l'intime, tout en subtilité. Sibelius disait de cette sixième qu'elle lui faisait penser à l'odeur de la première neige. Et puis, toujours cette transition imperceptible, ce paysage immobile et silencieux se transforme en une sorte de danse pastorale rythmée par la harpe. Sibelius n'en avait plus mis depuis la première symphonie. Et là, ce ne sont plus les cordes, mais les bois qui ont le beau rôle, flûte et hautbois notamment, très clair, très timbré.
Thank you.
C'est un peu une énigme, cette sixième de Sibelius avec son dépouillement. Sibelius explique que là où les compositeurs offrent tout un catalogue de procédés de composition, sa musique à lui cherche juste l'eau pure. Décidément, après la neige, les éléments sont omniprésents chez lui. Elle semble cristalline et innocente, cette sixième. Pourtant, Sibelius a déclaré à son propos qu'il y avait de la fureur et de la passion en elle, mais cachée en dessous de la surface. Pour les débusquer, peut-être faut-il aller jusqu'au dernier mouvement, plus brusque, avec des arrêts soudains et des coups de timbales. Presque effacée, cette sixième symphonie de Sibelius, c'est peut-être cette économie de moyens qui fait qu'elle est la moins populaire auprès du public, mais aussi la préférée des compositeurs finlandais d'avant-garde, comme Magnus Lindberg ou Kaija Saariaho. Dans les années 20, Sibelius commence à être invité en Grande-Bretagne, où il a toujours été très apprécié, mais il doit cesser de diriger à cause du tremblement de ses mains. C'est en 1924 qu'est créée sa septième et dernière symphonie, et là, on a affaire à un chef-d'œuvre absolu, selon Klaus Mäkelä, qui dirige l'intégrale que j'ai choisie pour cette émission avec l'Orchestre Philharmonique d'Oslo chez Decca. La septième est la plus parfaite. L'ami Jean-Yves Larouturou vous en a parlé récemment dans son émission, mais on n'est pas trop de deux. Je vous ai souvent dit que Sibelius cherchait à améliorer son art de la continuité, du tuilage entre les épisodes. Alors, par exemple, dans la cinquième, on l'a vu à l'œuvre. Eh bien, la septième, elle, cette fois, ça y est, elle est écrite d'une traite. Elle ne dure que 22 minutes, d'une seule coulée. Sauf que si vous écoutez bien, vous retrouvez les mouvements d'une symphonie traditionnelle, mais complètement condensée. On sent aussi une transcendance qui a fait dire à Serge Koussevitzky, le chef d'orchestre, que c'était le Parsifal finlandais. Alors, si on écoutait le début de cette septième, un coup de timbale étouffé, très sibélien, et une gamme ascendante des violons, comme si on cherchait à s'élever, et puis des flûtes impressionnistes. Thank you. cette progression interrompue de la septième de Sibelius va reprendre jusqu'à un sommet qui est comme une ouverture vers une autre dimension. Et là, trois trombones entonnent un thème incroyablement noble qui reviendra tout au long de la symphonie. Sibelius a donné à ce thème des trombones, un thème signature en quelque sorte, le nom d'Aino, sa femme. Le caractère d'élévation change, un deuxième mouvement s'enchaîne directement, vif, agile, comme un scherzo, et revoici même nos trombones, mais cette fois presque hésitants, comme si des épreuves étaient passées par là. Les épreuves dont je parlais, on les entend dans le staccato incisif des hautbois qui ouvre la dernière section, mais revoici nos trombones pour le thème d'Aino au bout d'une progression qui rappelle celle des deux premières symphonies, sauf que cette fois il n'y a plus rien de romantique. Ici vous entendrez une ruade brutale des cors et de longues notes de violon lisses comme gelées. Si lumière il y a, c'est une lumière blanche. C'est alors la fin de la symphonie, amenée par le trombone solo pour le thème d'Aino, qui apporte la sérénité, d'autant qu'il joue cette fois pianissimo. On revient au commencement, en ut majeur, pour un dernier crescendo, au bout duquel les violons montent vers le ciel, mais s'arrêtent net. Certains chefs la tiennent plus longtemps, cette dernière note des violons, mais Sibelius voulait qu'on la coupe nette. C'est la fin de la 7e symphonie Klaus Mäkelä et l'Orchestre Philharmonique d'Oslo. C'est la fin de ce joyau qu'est la 7e symphonie. Sibelius n'en composera plus. On sait qu'il a travaillé aux esquisses d'une 8e symphonie, mais on ne les a jamais retrouvées. Il lui reste encore à honorer une commande du Philharmonique de New York en 1926. C'est cette fois un poème symphonique Tapiola, qui franchit un pas encore dans la radicalité, dans la nudité. Tapiola, c'est une évocation de la forêt finlandaise, mais la forêt mythologique, avec ses esprits. Jamais Sibelius n'a été aussi peu soucieux de charme. Sa musique est rude. Une fois de plus, un coup de timbale pour lancer l'œuvre et un seul thème, énoncé dès le début aux cordes, et qui ne tardera pas à sonner bien rugueux. Et oui, toujours ces interruptions brutales chez Sibelius, comme chez Bruckner, mais en plus âpre encore. Ce thème va être un repère au cours de la vingtaine de minutes que dure Tapiola, comme une sorte de rappel des puissances brutes qui habitent la nature sauvage. Alors cette fois, non plus aux cordes, mais aux cuivres et timbales, un éclairage mat. Écoutez comment il va surgir d'un paysage sonore jusqu'ici plutôt doux. Dès le début de cette série sur Sibelius, j'avais attiré votre attention sur le goût du compositeur pour les fourmillements sonores venant après de longues plages statiques. Dans Tapiola, vous avez aussi cet effet, mais cette fois, ça n'est plus tellement de la lave en fusion. C'est chauffé à blanc, et si je dis à blanc, c'est bien parce qu'il y a le feu, mais aussi la glace. Quelle musique radicale quand même. On est en 1926, il reste à Sibelius 31 ans à vivre, il ne composera plus du tout. C'est un des grands mystères de l'histoire de la musique. Voilà une musique des progressions continues et des interruptions brutales, des grands espaces glacés et de la transcendance, de la métaphysique. C'est tout ça l'univers des symphonies de Sibelius qui ne ressemble à aucun autre. Pour vous les faire mieux connaître, j'avais choisi la version la plus récente, intégrale, de Klaus Mäkelä avec l'Orchestre Philharmonique d'Oslo. Et on pouvait aussi, et surtout, je dirais, compter sur la réalisation de Marie Grou et le mixage de Nadège Antonini pour rendre justice à cette musique. Un merci aussi à Soisic Noël et un clin d'œil à Marianne Spenloer en stage à France Musique cette semaine. La semaine prochaine, suite de l'histoire de l'Orchestre National. D'ici là, portez-vous bien et à très vite sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.